Radio Kapi.
Oh, Kapi. Jean-Désiré Kanyama.
Au sommaire de ce journal, le gouverneur de la province de l'Ituri réaffirme sa détermination à restaurer la paix dans l'ensemble du territoire de Djougou. Le général Gabingo Ikasongo l'a déclaré hier lundi lors d'un meeting populaire organisé à Djougou Centre. Lancement hier lundi à Kindu par le gouverneur de la province du Maniema de la campagne de vaccination contre la poliomyélite ainsi que la rougeole et la roubéole. L'objectif est de renforcer la protection des milliers d'enfants et de contribuer à la réduction de ces maladies dans la province. L'invité de ce journal est Steve Sekele, expert en digitalisation des opérations de recensement. Il s'exprime sur la série des formations organisées par le ministère provincial de l'Intérieur consacrée à la digitalisation du registre de la population à Kinshasa. D'abord, cette information qui vient de nous parvenir à l'instant même. À Bounia, un braquage spectaculaire s'est produit ce mardi tôt le matin dans une maison de transfert d'argent située à quelques mètres d'un poste de police. Des hommes armés ont ouvert les feux avant de s'emparer d'une importante somme d'argent et de prendre la fuite sans être inquiétés. Cet incident relance la question de l'insécurité dans les chefs-lieux de l'Ituri et suscite la colère de nombreux habitants qui dénoncent la passivité des services de sécurité. Et pendant ce temps, le gouverneur de l'Ituri réaffirme sa détermination à restaurer la paix dans l'ensemble du territoire de Djougou. Il a déclaré hier lundi lors d'un meeting populaire organisé à Djougou Centre, où il a été accueilli par une foule nombreuse. À cette occasion, le général Gabingo Ikasongo a lancé un appel aux miliciens pour qu'ils abandonnent les groupes armés et qu'ils reprennent une vie normale afin de contribuer au développement de leur communauté. Des détails avec Isaac Remoyopé.
Arrivé en début d'après-midi à Djougou Centre, le gouverneur de province s'est adressé à une population meurtrie par plusieurs années d'insécurité. Les habitants disent attendre avec patience le retour d'une paix durable et celui des milliers de déplacés encore loin de leur village. Dans son discours, le général Gabi Kasongo a réaffirmé sa volonté de restaurer la paix dans les territoires de Djougou. Il a exhorté les jeunes encore actifs au sein des groupes armés à déposer les armes et à reprendre leurs activités habituelles.
La paix doit être restaurée dans les villages et les chefferies. Les jeunes doivent renoncer aux groupes armés car il n'y a pas d'avenir dans la violence.
Le gouverneur a également souligné que le retour de la paix passe par l'implication de toute la communauté. Il a notamment appelé les parents à transmettre à leurs enfants les valeurs de patriotisme, d'amour du prochain et de coexistence pacifique.
J'appelle également les parents à éduquer leurs enfants dans l'amour de la patrie, le respect du prochain et le rejet de la haine. C'est à cette condition que la véritable paix pourra être restaurée.
Après son meeting à Djougou Centre, le gouverneur s'est rendu à Fataki, puis à Boulé, où environ 50 000 habitants ont fui le combat entre les FARDC et la CRP pour trouver refuge sur les sites des déplacés de la plaine de Savo, où vivent déjà des milliers d'autres personnes déplacées. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Plus de 670 000 enfants âgés de 0 à 59 mois sont attendus pour recevoir le vaccin contre la poliomyélite dans la province du Maniema. Par ailleurs, plus d'un million d'enfants âgés de 6 mois à 14 ans révolus sont concernés par la vaccination contre la rougeole et la roubéole. Cette campagne de vaccination a été lancée hier lundi au marché central de Kindu par le gouverneur de province du Maniema. L'objectif est de renforcer la protection des enfants et de contribuer à la réduction de ces maladies dans la province. Reportage de Florence Kizalunga.
Cette campagne de vaccination contre la rougeole, la rubéole et la poliomyélite concerne les 18 zones de santé de la province du Maniema. Le gouverneur de province, Moussa Kabankoubi, encourage les parents et les responsables d'enfants à adhérer à cette opération de santé publique.
Nous voulons que tous les enfants concernés puissent se faire vacciner, de telle sorte que nous puissions éradiquer ces trois maladies dans nos provinces.
Contrairement aux précédentes campagnes essentiellement organisées en porte-à-porte, celle-ci reposera sur trois stratégies. De vaccination, explique le chef de division provinciale de la santé, le docteur Faustin Bekonda.
Mais la santé, c'est pour la santé fixe. Les équipes de vaccination seront plantées dans les structures de santé. Elles doivent amener les enfants dans les structures de santé. Et puis la deuxième stratégie, c'est fixe à avancer. On va se déplacer vers certains endroits où il y a beaucoup d'enfants. Et la troisième, c'est à partir du quatrième jour, nous allons maintenant déployer les équipes dans les zones à accès difficile.
De leur côté, les partenaires du secteur de la santé réaffirment leur engagement à accompagner les gouvernements congolais dans les efforts de lutte contre la poliomyélite, la rougeole et la rubéole. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Retour en Ituri avec cet appel de l'Organisation Mondiale de la Santé, OMS, à renforcer l'implication des communautés dans la riposte contre Ebola. C'est l'un des principaux messages ici de la conférence de presse tenue hier lundi à Bunia, en présence notamment du directeur général de l'OMS pour l'Afrique et de l'équipe nationale des ripostes. Pour l'OMS, la riposte contre Ebola doit rester une responsabilité collective. Le point avec Jean-Claude Lokidile.
Selon les responsables de l'OMS, plusieurs défis persistent dans la lutte contre cette épidémie. Parmi eux, l'arrivée tardive de certains malades dans les structures de prise en charge. Une situation qui contribue encore à des décès au sein des communautés et parfois à domicile. Face à ce constat, cette agence de l'ONU insiste sur la nécessité de renforcer la sensibilisation et de travailler davantage avec les autorités politico-administratives, les chefs communautaires, les jeunes et les différentes forces vives de la société. L'objectif est notamment de permettre une détection plus rapide des cas, mais aussi d'amener les populations à consulter rapidement dès l'apparition des premiers signes de la maladie. Autre priorité mise en avant, rapprocher les services de prise en charge des populations. L'expérience d'Arou est présentée comme un exemple encourageant. Cette zone n'a enregistré aucun nouveau cas depuis environ 2 semaines, grâce notamment au renforcement de la surveillance et à la prise en charge des malades. Rappelons que selon le dernier bulletin épidémiologique datant du 7 août dernier, le cap des 1900 décès a été franchi sur plus de 4000 cas confirmés. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Okapi.
Au Congo central, le médecin chef des zones rurales de Boko-Kivu, dans les territoires de Manzangungu, également chargé de la surveillance épidémiologique, plaide pour la poursuite des mesures de désengorgement du cachot de Boko. Cela fait suite à la situation sanitaire préoccupante à ce cachot. Le docteur Mombolo Kangi Obeis appelle également à une implication accrue des services de l'environnement, de la justice, des autorités administratives ainsi que les acteurs communautaires. L'objectif, explique-t-il, est d'éviter une aggravation de la situation sanitaire dans cette partie du Congo central. Le docteur Mombolo Kangi Obeis a été joint par Élise Kavira.
La résolution durable de cette situation dépasse largement les seuls secteurs de la santé. La justice est déjà à pied d'œuvre, notamment pour contribuer au désengorgement du cachot. Malheureusement que ces désengorgements restent encore très timides. Nous sommes également dans l'incapacité de procéder correctement à la désinfection des locaux, notamment en raison de l'engorgement, sans exposer davantage les détenus et les équipes qui interviennent. Par ailleurs, les cachots ne disposent pratiquement ni de toilettes fonctionnelles, ni d'eau potable, pas d'aliments, pas de douches. Les détenus sont contraints d'uriner et de déféquer à l'intérieur même des locaux. Les déchets et les excréments sont ensuite évacués et déposés à proximité immédiate des cachots. Imaginez simplement qu'une pluie survienne ce soir. Les eaux de ruissellement pourraient transporter ces matières contaminées vers les rivières, les sources et d'autres points d'approvisionnement à l'eau de la population. Les risques ne concernent donc plus uniquement les détenus. Ils constituent une menace potentielle pour la communauté environnante. Donc notre message est bien simple. Nous avons besoin d'une action urgente, multisectorielle et durable.
Notez que le docteur Mombolo Kangi Obeis salue également l'appui de l'équipe d'urgence sanitaire dépêchée par la Division provinciale de la Santé ainsi que celui de l'Institut national des recherches biomédicales, INRB. Cette structure accompagne actuellement la zone de santé dans la gestion et la riposte à cette situation. Selon les responsables sanitaires, 6 décès venaient d'être enregistrés en moins d'une semaine dans cette maison carcérale. Autre chose, à présent, constituer un pool de magistrats formateurs sur la criminalité transfrontalière et les procédures judiciaires irrelatives, notamment en matière de blanchiment des capitaux, de trafic d'armes et de minerais, de terrorisme et de criminalité organisée. Tel est l'objectif principal qui a motivé l'organisation durant 5 jours à Kinshasa d'une formation nationale des formateurs destinée aux magistrats civils et militaires. Des détails avec Jean-Marc Matouaki.
Initié par les conseils supérieurs de la magistrature en partenariat avec l'organisation internationale Initiative pour la paix et les droits humains, IPIS, mais cette session de formation lancée ce lundi 10 août à l'Institut national des formations judiciaires réunit des participants civils et militaires. Il est surtout question de les outiller pour acquérir des compétences sur les trafics illicites des ressources naturelles, les blanchiments des capitaux, la traite des êtres humains et les financements des groupes armés. Comme l'explique le lieutenant-colonel magistrat Théodore Makonga Ilunga, chargé de la formation, législation et statut au Conseil supérieur de la magistrature.
Ces magistrats devront être capables de transmettre ces connaissances à leurs collègues en qualité de formateurs et de contribuer ainsi à l'amélioration de la pratique judiciaire, particulièrement dans le traitement des dossiers relatifs à la criminalité transfrontalière.
Selon l'organisation internationale IPIS, cette formation permettra d'améliorer l'accès à la justice dans la région des Grands Lacs. Maître Albert Kokolomami, directeur de programme de l'ONG internationale IPIS.
Cette formation s'inscrit dans le cadre de notre projet Uhakibila Mipaka, que c'est en swahili, ça veut dire justice sans frontières, un projet qui vise à améliorer l'accès à la justice dans toute la région des Grands Lacs.
Donner de l'espoir, transmettre des compétences et ouvrir la voie vers l'autonomie, c'est le pari relevé au Kassai Oriental par la Fondation Lona, qui veut dire s'aimer. À l'Institut National de Préparation Professionnelle, INPP Mujimai, près d'une centaine de personnes vivant avec handicap arrivent au terme d'une formation qui leur offre de nouvelles perspectives. Esthétique, informatique, modélisme, coupe et couture, soudure, autant de métiers qui leur ouvrent désormais les portes du marché du travail. Esther Ndalafina pour le reportage.
Dans les ateliers de l'INPP, l'ambiance est au travail et à la concentration. Qu'ils soient installés devant une machine à coudre, un poste de soudure, un ordinateur ou une table d'esthétique, ces apprenants, pas comme les autres, peaufinent leurs derniers gestes. François Mukendi dit être prêt à se prendre en charge après sa formation en soudure.
On nous a déjà appris à comment faire des lave-mains, les braseros. Je ne peux pas être à manger.
Plus de 100 personnes vivant avec handicap ont ainsi appris un métier manuel ou technologique, brisant les préjugés sur leurs capacités. Une formation concrète pensée pour leur garantir une autonomie financière et une véritable insertion sociale. Loani Kasanga, désormais esthéticienne, en témoigne.
Ça va nous aider à devenir autonomes. Notre vie sociale a changé. Nous allons prendre la charge de nos familles.
Cette initiative porte la signature de la Fondation Lona, dirigée par la première dame Denise Nyakero Tshisekedi, qui réaffirme à travers ce projet son engagement pour l'inclusion des personnes vulnérables. La cérémonie de clôture officielle et de remise des brevets s'annonce déjà comme une étape décisive, le début d'une nouvelle vie professionnelle pour ces nouveaux artisans et techniciens. Esther Ndalafina Mbushimai, Radio Okapi.
Et puis une vingtaine de femmes exerçant le petit commerce le long du fleuve Congo à Kisangani ont reçu dimanche dernier un appui financier de la fondation Eriko Aokumwana. Ce geste s'inscrit dans le cadre du programme Lisungi et vise à permettre à ces femmes d'être autonomes. Reportage de Ronelyne Tibonera.
Les bénéficiaires, parmi lesquels de vendeuses de feuilles de manioc, des braises ou encore d'huile de palme, n'en reviennent pas. C'est le cas de Mama Lidine, vendeuse de feuilles de manioc au port de Kisangani. Mère de plusieurs enfants, elle se réjouit de voir que les fonds reçus vont lui permettre de renforcer son petit commerce tout en assurant la scolarité de ses enfants.
Cette année, je ne savais pas si j'allais réussir à scolariser mes enfants. Grâce à cette assistance, je suis désormais en mesure de les envoyer à l'école.
Au-delà de la distribution des fonds, Eriko Aokumwana mise sur la pérennisation des activités des bénéficiaires. Il explique avoir profité de cet appui pour dispenser des sessions d'éducation financière aux femmes sélectionnées dans le cadre du programme.
Il n'est pas que question de donner des fonds, mais il est aussi question de mettre à disposition des fonds, mais de suivre aussi comment est-ce que ces fonds-là sont utilisés et est-ce que ces fonds-là atteignent vraiment le but pour lequel nous nous sommes assignés.
La fondation Eriko Aokumwana pour le changement, basée à Kisangani dans la province de La Tchopo, est une organisation sans but lucratif. Elle œuvre pour l'amélioration des conditions de vie de la communauté à travers des actions humanitaires, éducatives et d'autonomisation.
5 morts et des blessés, c'est le bilan provisoire d'un accident de circulation routière qui a eu lieu hier lundi à 53 km de Lubumbashi sur l'axe Likasi. D'après des témoins, 2 véhicules sont entrés en collision. Pour la Commission nationale de prévention routière CNPR, l'excès de vitesse et l'ivresse au volant sont les causes de l'accident. Le point avec Paul Mounanga.
Un minibus de marque IAS qui s'est rendu à Likasi est entré en collision avec un camion de marque Fuso en partance pour Lubumbashi, rapporte des témoins. Parmi les 5 personnes qui ont succombé, il y a les 2 chauffeurs de ces véhicules et 3 femmes. Le directeur provincial de la CNPR, Dio Katanga, qui s'est rendu sur les lieux du drame, déplore l'indiscipline de certains conducteurs qui ne respectent pas les codes de la route. Moïse Bomana.
La CNPR sensibilise sur le respect du code de la route. Malheureusement, l'indiscipline de certains conducteurs nous poussent aujourd'hui à enregistrer des morts. Alors, nous allons maintenant prendre des mesures coercitives et drastiques à l'égard de tous ceux qui se permettent de prendre le volant en état d'ivresse et surtout d'aller au-delà des vitesses limites requises.
Signalons qu'un véhicule de la CNPR a acheminé les morts à la morgue des cliniques universitaires au centre-ville de Lubumbashi. Lubumbashi, Paul Mounanga, Radio Okapi.
Actualité internationale.
En Ouganda, c'est la bataille actuellement pour le pouvoir local derrière les élections de paroisses. Ces conseils de paroisses, peu connus du grand public, jouent pourtant un rôle concret dans le règlement des litiges, le maintien de l'ordre et les relais avec les autorités. Le renouvellement hier lundi doit aussi permettre de mesurer les rapports de forces politiques au niveau local dans un système où le NRM, parti au pouvoir, part avec un net avantage.
L'invité.
L'invité de ce journal est Steve Sekele, expert en digitalisation des opérations de recensement. Il s'exprime sur la série des formations organisées par le ministère provincial de l'Intérieur consacrée à la digitalisation du registre de la population à Kinshasa. Cette première session cible les agents recenseurs ainsi que les chefs de quartier des communes de Kasavubu, Bandalungwa et Kalamu. Le programme sera progressivement étendu à d'autres entités de la capitale Kinshasa. Steve Sekele s'entretient avec Blaise Dongala Mayanda.
Bonjour monsieur Steve Sekele.
Bonjour.
Vous formez le chef de quartier et agent recenseur des trois communes de Kinshasa, Kasavubu, Kalamu et Bandalungwa, sur la digitalisation du registre des populations. En quoi consiste cette session?
Nous sommes à l'heure d'aujourd'hui dans la digitalisation des processus liés à la gouvernance et à la population. Donc, ce projet vise en fait à un renforcement de capacités au niveau des entités territoriales décentralisées qui vise en fait à doter les agents recenseurs des communes d'une technologie de pointe basée sur le numérique. Et ces projets en fait visent un renforcement de capacités et vont aider en fait nos collaborateurs au niveau des communes à s'outiller convenablement lors des collectes de données auprès des ménages. En deux mots assez simples, nous sommes en train de développer les capacités de nos collaborateurs, j'entends ici les agents recenseurs, à l'aide des outils digitaux.
Quels ont été les critères de choix de ces trois premières communes pilotes?
Nous ne sommes plus en phase pilote, nous sommes plutôt en phase d'extension. Le projet en tant que tel avait déjà débuté en 2022 et nous avions eu en 2023 à faire des mêmes exercices au niveau de la commune pilote de Kintambo. Aujourd'hui, nous ne sommes plus en phase pilote, mais nous sommes plutôt en phase déploiement. Et ces trois communes ont été choisies dans l'ordre de grandeur des différentes communes ou de leur cartographie administrative, qui fait en sorte que Kalamu, Kasavubu et Bandal sont les communes les plus petites. Et au fur et à mesure que nous allons nous développer, nous allons en fait prendre en compte les autres communes qui ont des dimensions un peu plus élargies.
Bénéficiez-vous de l'appui de quelques partenaires?
Oui, effectivement, nous avons en priorité d'abord la ville de Kinshasa, à travers le gouverneur de la ville, par le truchement du ministère provincial de l'Intérieur. Ensuite, nous avons également les PTF, que nous appelons ici les partenaires techniques et financiers, tels que l'Union des villes et des communes, issus en fait de la Belgique.
Après les formations, quelle sera la prochaine étape?
La prochaine étape vise en fait à descendre sur le terrain au niveau des ménages en s'appuyant sur d'abord la sensibilisation parce qu'il faut préparer la population à cette campagne qui approche et qui arrive. Et après la sensibilisation, il y aura la collecte proprement dite qui s'articulera autour du recensement ou de la récupération de données déclaratives au niveau de la population.
En marge de cette activité, quel est le message que vous pouvez lancer à l'opinion?
En effet, nous poussons ou nous demandons à notre population, la bonne et la grande population congolaise, d'adhérer massivement à cette campagne de collecte d'informations ou à ce recensement administratif qui fait partie en fait d'un devoir civique. Premièrement, il faut noter que nous devons nous recenser pour en fait aider l'autorité ou la gouvernance à mieux identifier sa population. C'est l'un des préalables même dans ce qui concerne la gouvernance. Et deuxièmement, le recensement est aussi quelque part un geste. C'est un acquis pour la gouvernance dans la mesure où elle constitue en elle-même un outil d'aide à la décision. Sur les projets de l'État, sur les projets de la population, sur les projets de la ville-province de Kinshasa, eh ben, soyez sûr que le gouvernant ou le dirigeant a besoin d'être bien informé pour pouvoir prendre des bonnes décisions. C'est ainsi que j'en appelle à une adhésion massive de toute la population congolaise en général et kinoise en particulier pour que ceux-ci puissent bien et bien recevoir les agents recenseurs qui passeront dans leurs ménages respectifs afin de pouvoir donner les informations nécessaires à cette campagne de recensement.
Monsieur Steve Sekele, Nous vous disons merci.
Merci, monsieur le journaliste.
Notre invité Steve Sekele, expert en digitalisation des opérations de recensement, s'entretenait avec Blaise Donga Lamayanda. Ce journal est à présent terminé. Il a été mis en onde par Pierre Diassinois. Alain Irung l'a préparé et Jean-Désiré Kanyama vous l'a présenté. À vous, infiniment merci de l'avoir écouté.